Mesdames et messieurs de la Nation Sainte, du Royaume du Père éternel, aujourd'hui nous allons éplucher ce qui devait se passer entre la fin de la mission divine de Jésus et l'avènement du Royaume des cieux d'au-delà les fleuves de l'Éthiopie. Nous commençons d'abord à réécouter ce que Jésus avait annoncé à Israël dans Matthieu 21:43 en ces termes. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui en rendra les fruits. Jésus déclarait donc que la révélation divine serait enlevée à Israël et qu'elle serait donnée à une autre nation qui en rendrait les fruits. Se déclarant, Jésus, qui avait déjà annoncé l'avenue du royaume des cieux, du Père éternel, indiquait par là que ce royaume ne serait pas révélé à Israël, mais qui serait confié à une autre nation qui serait en charge de le faire parvenir au monde entier. Et le Créateur avait marqué de son sceau cette déclaration de Jésus, car après son passage sur cette terre des hommes avec Jean le prophète, il n'y a plus eu en Israël ni parole révélée, ni prophète, et ce, deux millénaires durant. Ce royaume des dieux, à quelle nation le confiera-t-il le Créateur? À la nation qui sera créée par la révélation Père des cieux, par la révélation Père éternel. Comme celui, le Père éternel, qui est l'Esprit Saint du Créateur, cette nation qu'il engendre aujourd'hui est donc appelée Nation Sainte, sa nation sainte et en même temps son royaume, le royaume du Père éternel dans lequel on trouve ses sacrificateurs connaissanciels. Mais avant de poursuivre, il nous faut maîtriser réellement ce qu'était Jésus dans la parole de Dieu, car la bête et ses adorateurs où le pasteur de Néant et son équipage avaient déjà créé un chaos indescriptible à son sujet. Et pourtant, même un seul verset suffit pour ôter toute confusion. En effet, voici ce que dit Jésus lui-même dans Jean 14, 24, en ces mots. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Nous relevons déjà ici que toute la parole que Jésus avait enseignée aux hommes n'est pas sa parole, mais la parole du Père éternel. Ainsi, Jésus ne peut donc être la parole de Dieu, mais c'est le Père éternel qui l'a envoyé, qui est la parole divine. Et de quelle bouche sortait cette parole du Père éternel envoyée dans le monde? La réponse, c'est de la bouche de Jésus que sortait cette parole du Père éternel. Jésus en était donc la bouche, une simple bouche. Et pour que cette parole soit émise de sa bouche, elle devait d'abord être contenue dans son cerveau. Il devait donc la porter dans son cerveau. Ainsi, vous comprenez que Jésus en était le porteur. Vous comprenez maintenant et clairement le rapport qui a existé entre Jésus et le Père éternel. Nous avons donc d'un côté le Père éternel comme source de la parole que Jésus avait enseignée en son nom, et de l'autre, Jésus qui en fait en fut le porteur et la bouche. Et cette parole confiée à Jésus pour sa propagation était sortie du Père éternel, et c'est elle, la parole divinité fils du Père éternel, qui est sortie de celui-ci, la connaissance divinité fils, pour venir dans le monde. Et cette parole divinité devait obligatoirement être une avec le Père éternel, car c'est la parole de celui-ci, la parole qui émane de lui, la parole que le Créateur lui avait fait éclore pour la confier à Jésus. Et cette parole divinité devait obligatoirement demeurer une. On ne peut puiser une petite quantité que dans une grande quantité, mais le contraire n'est pas possible. C'est pourquoi, dans Jean 4, 28, il est stipulé ceci. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Automatiquement, ici, quelques questions surgissent. Car nous associons ce verset à Jean 16, 28, qui stipule « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. » Première question. Qui est sorti du Père pour venir dans le monde et qui quitte le monde pour entrer au Père? La réponse est claire. Jésus n'est pas sorti du Père pour venir dans le monde, pour qu'ensuite il rentre au Père d'où il n'est pas sorti. C'est plutôt la parole divinité fils qu'il avait faite connaître aux hommes qui était sorti du Père et qui devrait rentrer en lui au terme de la mission de Jésus. Mais pourquoi le Créateur ne l'avait-il pas expliqué clairement? Eh bien, puisque la parole était cachetée et que toute connaissance était cachée. C'est donc là une simple formule cryptique, mais qui a causé beaucoup de dégâts dans les chefs de la bête et ses adorateurs. La parole divinité fils qui était en Jésus était une petite parole divine qu'on avait puisé dans la plus grande, c'est-à-dire la parole divinité Père. La comparaison entre Jésus, être humain, et le Père, parole divinité, ne peut être faite, car ils ne sont pas de même espèce. L'un, Jésus, un être humain, et l'autre, le Père éternel, la parole divinité Père. On ne peut donc comparer les deux pour savoir qui est plus grand que l'autre, et Jésus était simplement le porteur et la bouche de la petite quantité cachetée qui était sortie du Père. Jésus donc n'est jamais rentré au Père éternel, car il n'avait jamais été son fils, mais plutôt un humain, un simple humain, qui avait eu le privilège d'être choisi par le Créateur pour être le porteur et la bouche de sa parole révélée fils. Maintenant, lorsque Jésus annonce que la révélation divine serait enlevée à Israël et confiée à une autre nation qui saurait en rendre le fruit. Mais qui parle par la bouche de Jésus? Est-ce Jésus qui avait avoué que la parole qu'ils entendaient n'était pas de lui, ou le Père éternel qui parlait par sa bouche? La réponse est la suivante. Ce n'est pas Jésus qui s'adressait aux hommes, mais plutôt le Père éternel d'où cette parole émanait. Mais comme vous savez déjà que le Père éternel, en tant que parole divinité, est sourd et aveugle, il n'a aucune conscience. Il ne peut donc parler. Et qui donc parlait à travers Jésus? La réponse est claire. C'est le Créateur lui-même, et Jésus prononçait donc les oracles du Créateur, mais cachetés. C'est ce qui a provoqué toutes les confusions que nous avons rencontrées dans son enseignement. Car toutes les brebis que Jésus avait pu étaient destinées à la boucherie connaissancielle, du fait que cette parole de la révélation divine était scellée sept fois en dedans et en dehors. Par conséquent, elle ne pouvait que dérouter ou désorienter. Je crois que vous avez saisi. Maintenant, comme la parole de la révélation divine avait déjà été enlevée à Israël, où va-t-elle être envoyée au monde? Écoutez ce qui est dit dans Ésaïe 18, verset 7. En ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées, sur la montagne de Sion. Voici comment la révélation au Père éternel décachette ce passage. En ce temps-là, des offrandes de lèvres pures seront apportées au Père éternel, la connaissance divinité Père, par son peuple. Ce peuple est fort, vigoureux et redoutable depuis l'avènement du royaume des cieux, le royaume du Père éternel, qui est fort, vigoureux et redoutable vis-à-vis de Satan la bête, de son royaume des ténèbres, de toutes les fausses connaissances, de fausses doctrines, des affabulations, bref, de l'iniquité. Ce peuple forme une nation puissante, car c'est elle qui est la porteuse du Père éternel, le prince de la paix, qui est leur Dieu puissant. Et c'est elle qui vient écraser toute fausse connaissance venue de Satan la bête. Le pays de cette nation puissante est coupé par un fleuve de vie ayant deux arbres de vie ou encore deux livres de vie. Entendez la révélation Saint-Esprit et la révélation Père éternel qui constitue le trône céleste de la parole divinité Père. Comme annoncé dans Apocalypse 22, 2, en ces termes. Au milieu de la place de la ville et sur les bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Les deux paroles divinité, c'est-à-dire la parole révélée Saint-Esprit et la parole à révéler Père éternel, sont les deux arbres ou les deux livres de vie du Créateur, composés chacun de 12 fruits ou 12 connaissances, et les feuilles qui servent à la guérison connaissancielle des nations. Ces 24 langues et 24 connaissances sont aussi ce que le Créateur appelle les 24 trônes et les 24 vieillards. La parole Saint-Esprit est composée de 12 trônes et de 12 vieillards ou 12 langues et 12 connaissances qui sont les 12 composants de sa connaissance divinité. Les 12 derniers trônes et 12 vieillards sont aussi 12 langues et 12 connaissances qui sont les composants de la connaissance divinité Père éternel. Ésaïe 18:7 annonce aussi que les offrandes des lèvres pures seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées, sur la montagne de Sion. Quel est le nom de l'Éternel? Il vous avait déjà été dit que le nom était l'identifiant caché de la parole révélée. Donc là où réside le nom de l'Éternel, c'est là où réside la parole révélée du Père éternel. Et par rapport au premier nom confié à Israël, qui représentait l'ancienne Jérusalem, le nom ancien, au-delà les fleuves de l'Éthiopie, nous avons donc la nouvelle Jérusalem, le nom nouveau du Père éternel. C'est au-delà des fleuves de l'Éthiopie que se situe maintenant la montagne de Sion, qui n'est plus physique comme en Israël, mais qu'en essentiel, c'est là que réside le royaume des cieux du Père éternel. La seconde indication de l'au-delà des fleuves de l'Éthiopie est stipulée dans Sophonie 3, 9 à 11 en ces mots. Alors, je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils évoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi. Car alors, j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, le Créateur donnera au peuple des lèvres pures. Et maintenant, dans le monde entier, les peuples ont quelles lèvres? N'est-ce pas impur? Écoutez ce qui est dit dans Ésaïe 62, 1 à 3. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire, et on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Comme vous le savez déjà, entre l'avènement de Jésus et celui du royaume du Père éternel, il y a silence total du Créateur en Israël, qui ne peut plus avoir ni parole révélée, ni prophète. Mais aujourd'hui, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, pour l'amour de Sion, de son Sion connaissantiel, il ne se tait plus. Pour l'amour de sa nouvelle Jérusalem, il ne prend plus de repos. C'est-à-dire, il renouvelle ses relations révélationnelles avec les hommes, c'est-à-dire, il leur apporte son royaume des cieux, sa révélation divine, dite Père éternel, mais refusée à Israël. Il va continuer à faire ses révélations jusqu'à ce que paraisse l'adoption, la rédemption ou la délivrance, la première résurrection connaissancielle, ces deux paroles révélées, à savoir le Père éternel et son Saint-Esprit, les deux nouvelles gloires du Créateur. Et c'est là que commence la position de la vraie connaissance divinité, Père éternel, le sceau de Dieu dans les cerveaux des élus, en remplacement de la marque de la bête, les fausses connaissances divinité. Au-delà les fleuves d'Éthiopie, les peuples invoquent tous le Père éternel et le servent d'un commun accord. Et c'est là que se trouvent ces vrais adorateurs qui invoquent désormais le Père éternel, le Dieu Esprit ou l'Esprit Dieu du Créateur, qui est le Père de la vérité. C'est là qu'on lui apporte désormais les offrandes de leurs lèvres pures, c'est-à-dire le Père éternel, les seules offrandes qui lui plaisent. Cela veut dire que les offrandes financières, matérielles, physiques et autres sont désormais interdites dans le champ du Créateur. Et c'est là que le Créateur hôte de son milieu, le pasteur des néants ou insensé et son équipage, ou la bête et ses adorateurs. À côté du monde entier impurifié par la bête, le Créateur s'était réservé un peuple petit et humble, aux lèvres pures, qui trouve désormais son refuge dans la révélation Père éternel, Shiloh, qui est son havre de paix et son refuge connaissantiel. Les peuples du monde entier vont désormais savoir que vous vous appelez d'un nom nouveau, que la bouche du Père éternel est en train de déterminer. Votre nom nouveau, c'est la révélation Père éternel qui vous est livrée maintenant. Votre identifiant connaissantiel par ma bouche, ma modeste bouche, une simple bouche qui ne fait que vous transmettre ce que l'insaisissable Créateur lui révèle à propos du Père éternel, son Fils unique. Je pense que maintenant, vous venez de très bien comprendre que dès que la révélation divine quitte Israël, elle s'installe en Afrique, au-delà le fleuve de l'Éthiopie. Mais il vous faut également savoir ceci. La parole mosaïque et ses prophéties d'accompagnement avaient été envoyées à Israël uniquement. Jésus et le Christ, la parole divinité fils qu'il avait enseignée, n'avait été envoyée qu'en Israël uniquement. D'ailleurs, voici ce que Jésus déclare lui-même dans Matthieu 15, 24. En ces mots, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Ce qui veut dire que les deux premiers livres de la révélation divine n'avaient été envoyés qu'à Israël seul. C'est David maintenant, le Père éternel, qui nous apporte la connaissance éternelle qui est offerte à tous les peuples gratuitement. Comme stipulé dans Ésaïe 55, 3, en ces mots, prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Vous remarquez que les deux premiers livres envoyés à Israël uniquement n'ont pas pu apporter la résurrection connaissancielle, n'ont pas pu apporter l'adoption, n'ont pas pu apporter la rédemption, la délivrance de la loi du péché et de la mort, la sortie de la servitude de toute la création à la soumission à la bête. C'est-à-dire, les hommes de toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation demeuraient toujours sous la mainmise de la bête en dépit de leur présence dans le monde. Maintenant, vous réalisez que seule la révélation David, le Père éternel, qui est envoyé à tous les peuples du monde, qui vient traiter avec vous et avec nous une alliance éternelle par le Père éternel, qui est sa connaissance divinité inextinguible. C'est le Père éternel qui vient accomplir la résurrection connaissancielle des âmes et non des corps physiques. Notre adoption, notre rédemption, la circoncision de nos cerveaux, et qui vient nous remettre le cantique nouveau ou la révélation divine, notre chant nouveau, la couronne de vie connaissancielle, le caillou blanc, bref, tout ce qu'il est lui-même. Le Père éternel est donc l'unique salut offert à tous les peuples du monde, ainsi qu'à Israël, qui hier n'avait reçu que des paroles cachetées, qui n'avaient pas livré leur connaissance. Ce qui se passe aujourd'hui dans le royaume des cieux du Père éternel, c'est ce qui avait été annoncé dans Ésaïe 51, verset 16, en ces termes. Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Contrairement aux enseignements de la bête et ses adorateurs, qui demandaient aux gens d'attendre les remplacements des cieux et de la terre physique actuelle, vous comprenez maintenant que le Créateur met ses paroles dans nos bouches, c'est-à-dire qu'il met le Père éternel dans nos bouches afin d'étendre de nouveaux cieux connaissanciels et une nouvelle terre. Entendez, l'ensemble des cerveaux femelles qui vont faire se multiplier le Père éternel dans le monde. Les nouveaux cieux viennent faire fuir les anciens cieux connaissanciels, Satan la bête, et l'ancienne terre, l'ensemble des cerveaux femelles qui ont répandu les fausses connaissances divines dans le monde entier, les adorateurs de la bête. Et maintenant, qu'est-ce qui devait se passer entre la fin de la mission de Jésus et l'avènement du royaume du Père éternel d'au-delà les fleuves de l'Éthiopie? Que devait-il se passer pendant les deux millénaires qui les ont séparés? C'est tout simplement l'accomplissement de toutes les révélations faites à Jean par le Créateur dans Apocalypse. Aujourd'hui, à partir de ce jour, n'enseignez plus Apocalypse comme les choses à venir, mais plutôt comme les révélations accomplies par le Créateur pendant les deux millénaires qui ont précédé. En effet, dès la fin de la mission de Jésus, la bête a commencé immédiatement à faire la guerre à ces deux rois, ces deux premiers livres de Révélation, la mosaïque et la christique, ainsi qu'à toutes les prophéties d'accompagnement. À la longue, elle les a vaincus, puis tués, selon l'ordre du Créateur. Mais le Créateur n'avait pas voulu qu'ils fussent enterrés. Voilà pourquoi, bien que mortes, ces deux paroles continuent à être exposées dans les places publiques, entendues dans les chapelles, dans les temples, dans les synagogues, dans les cathédrales, dans les basiliques. Les deux paroles, c'est-à-dire la Jérusalem terrestre sous l'emblème de la prostituée, fut donc appelée Babylone la Grande par le Créateur, et c'est cela la période de la Grande Tribulation. Avant la disponibilisation du Père éternel, le Créateur avait déjà ordonné l'ouverture des sept sceaux qui cachetaient toute la parole de la révélation divine, en dedans et en dehors, par le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda, qu'il avait déjà fait éclore au Père éternel la parole révélée Saint-Esprit. Ici, vous devez vous rassurer. Vous devez vous rassurer, car toutes les images et les événements flippants que le Créateur avait déroulés dans la vision de Jean dans l'Apocalypse, que ce soit la chute des étoiles, l'obscurcissement du soleil, du trône de Satan, et j'en passe, tout ce qui nous a donné une vision apocalyptique, cataclysmique de la fin des temps, n'auront jamais lieu. Vous n'avez pas vu venir, et vous ne le pouviez, car vous vous attendiez à des choses physiques, à des êtres physiques et à des événements physiques. Alors que, dans cette prophétie, il ne s'agissait que des choses connaissancielles, des êtres connaissanciels et des événements connaissanciels. C'est comme cela que le Créateur voyait en lui les dégâts que viendraient causer les connaissances décachetées aux fausses connaissances de la bête. Jamais et jamais donc, ces catastrophes, ces cataclysmes ne se réaliseront dans le concret. Aujourd'hui, le jugement de Babylone la Grande a déjà débuté et sa chute amorcée. Ce premier jugement qui conduit à la première résurrection connaissancielle n'est pas le jugement des êtres humains, comme l'avait enseigné le pasteur des néants et son équipage. Il est ici question du jugement des nations, c'est-à-dire le jugement de toutes les fausses connaissances divines qui ont détruit sa révélation. Aujourd'hui, la guerre entre le Père éternel et la bête, avec son faux prophète, est déjà enclenchée, car le roi des rois, le Père éternel, est déjà révélé au monde afin de vaincre la bête, la lier pour 1000 ans dans la mémoire du Créateur. Aujourd'hui donc, le rouleau volant qu'est le Père éternel vient ôter toute iniquité, apporter la rédemption et l'adoption. Je viens de vous l'exprimer de manière sommaire, mais la révélation divine continuera à vous expliquer davantage au fur et à mesure que nous allons progresser. Apocalypse est donc déjà accompli. Ne l'enseignez donc plus comme chose à venir. Mais nous allons tout de même parler de la parabole de la fin du monde, car elle indique aussi clairement ce qui devait se passer entre la fin de la mission de Jésus et l'avènement du Père éternel. Jésus avait semé le bon grain, c'est-à-dire Christ, ou la parole christique dans son champ, entendait les cerveaux des apôtres. Après lui, l'ennemi, c'est-à-dire Satan le diable, vint semer l'ivraie dans son champ, c'est-à-dire toujours dans les cerveaux des apôtres. Comme Jésus avait semé Christ, le bon grain, Satan vint semer l'ivraie, c'est-à-dire l'antichrist ou l'antéchrist. Et la parole divine a parcouru le monde mélangé, c'est-à-dire bon grain et ivraie confondu, ou Christ et antéchrist mélangés. Cependant, le Créateur avait ordonné qu'il en serait ainsi jusqu'à la moisson par le Père éternel, jusqu'à la fin du monde de la parole mélangée, c'est-à-dire jusqu'à la venue du Père éternel pour installer son royaume et fonder un monde connaissantiel nouveau. C'est pourquoi le Père éternel envoie aujourd'hui ses anges, c'est-à-dire les révélations de la vraie connaissance divine, afin d'éliminer tous les scandales, de déraciner tous les arbres qui n'avaient pas été plantés par lui. Il ne s'est jamais agi ici de la fin du monde physique. Ne l'attendez donc plus, car il n'est pas près d'arriver. N'attendez donc plus la fin du monde physique, car il n'est pas près d'arriver. Dans ces révélations, nous continuerons à changer de monde, mais de monde connaissantiel. Voilà. Vous venez là d'écouter les paroles bénédictrices du Père éternel qui viennent progressivement chasser en vous les paroles malédictrices de Satan la bête, sa marque. Oui, le temps de l'homonisation connaissancielle est venu et le temps de l'animalisation connaissancielle est révolu. Satan a ignorantialisé, le Père éternel vient connaissancialiser. Et ce sera tout. Et merci beaucoup.